Frères et sœurs amis, en ce 12e dimanche du temps ordinaire, nous rencontrons encore et à nouveau un texte de l'évangile de saint Marc que nous connaissons bien, puisqu'il s'agit de la tempête apaisée. Alors rentrons tout simplement dans ce texte qui, une fois de plus, va orienter notre première question. Qui est donc cet homme, Jésus-Christ ? En fait, c'est la grande question qui court tout au long de l'évangile de saint Marc. Et ici, j'allais dire, la réponse est dans la question. Qui a pouvoir sur la mer et sur les éléments infernaux que symbolisent l'océan et la mer, eh bien, Dieu lui-même. C'est justement ce qui nous était rappelé dans la première lecture du livre de Job. Donc Dieu maîtrise tous les éléments. Pourquoi il les maîtrise ? Parce qu'il est le créateur de tous ces éléments. Donc il est celui qui, j'allais dire, sait comment tout fonctionne, au bon sens du terme. Mais le Seigneur et Dieu, son Père d'abord et avant tout dans l'Ancien Testament, maîtrise tellement les éléments qu'il met ces éléments au service de son peuple. Souvenons-nous, et là revient à notre esprit et à notre cœur, la mer Rouge qui devint une route sans obstacle, lorsque Moïse, frappant les eaux de son bâton de berger, eh bien, va faire que cette mer va s'arrêter, se dresser en muraille, à gauche et à droite d'un immense chemin où le peuple hébreu va pouvoir faire la traversée à pied sec. Ce qui est repris dans un psaume bien connu, « Seigneur, les eaux en te voyant tremblèrent, l'abîme lui-même a frémi. » Alors, au moment même où les disciples qui sont là dans la barque posent la question « Qui est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» les disciples trouvent par eux-mêmes la réponse, c'est Dieu lui-même, cet homme, pour finir, qui est là dans la barque avec lui, c'est Dieu. Et c'est pour cela qu'ils sont, comme le dit saint Marc, venons d'entendre, que les disciples sont saisis d'une grande crainte. Ils ont saisi d'une grande crainte, pourquoi ? Parce qu'ils ont bien compris qu'ils sont en face de Dieu lui-même. Alors il y a là une sorte de paradoxe ou d'opposition très intéressante du texte. Les disciples sont terrifiés d'une part par la tempête qui se déchaîne, et maintenant, une fois le calme miraculeusement rétabli, se substitue une autre crainte, la crainte qu'on éprouve en présence de Dieu, ce Dieu qui lui seul est capable de maîtriser toutes les tempêtes. Car ils ont bien vu et entendu que Jésus a donné des ordres à ces éléments, à la mer. Comme il avait donné l'ordre de museler, de faire taire le démon à Capharnaüm. Donc les disciples ont interprété et ressenti certainement la maîtrise du Seigneur Jésus-Christ sur les eaux déchaînées du lac de Tibériade comme la preuve, tout simplement, de sa maîtrise sur toute espèce de mal. Mais j'allais dire, ce qu'il y a de plus surprenant dans ces quelques versets de ce texte de saint Marc, ce n'est pas la peur des disciples, ni à la limite la première crainte de la tempête, ni leur deuxième crainte en face de celui qu'ils reconnaissent comme étant Dieu lui-même. Le plus surprenant de ce texte, la question que Jésus lui-même va leur poser, « Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Alors nous sommes étonnés, si je puis dire, que Jésus s'étonne. Il va même faire de délicats reproches. En effet, est-ce que, et c'est une question qu'on peut se poser, la peur ou la crainte de la tempête n'est-elle pas le début ou le commencement d'une certaine sagesse ? La sagesse toute simple de reconnaître que nos forces personnelles sont limitées. Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ? Oui. Nous posons cette interrogation et cette question au Seigneur, en définitive, assez souvent. Alors aussi, le Seigneur ne répond pas directement, puisque il dit qu'avoir peur, en définitive, c'est manquer de foi. Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ? Oui, le Seigneur maîtrise calmement les éléments. Il n'a pas eu peur une seconde, parce qu'il a la foi, tout simplement, il a la foi de son Père. Mais nous pouvons tirer quelque chose d'assez intéressant, si vous le voulez bien. Souvenons-nous, dans les premiers chapitres de la Genèse, voyez qu'une fois de plus, on y revient de manière sans cesse, lorsque Dieu va dire à l'homme « Dominez la terre et soumettez-la ». Ce n'était pas une parole mondaine, une parole en l'air. C'était et c'est encore, oui, osons le dire, c'est encore le projet de Dieu sur nous. Ce projet sur l'humanité va s'accomplir en la personne de Jésus-Christ, 100% homme et 100% Dieu, je vous le rappelle souvent, qui à son tour nous dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, allez donc et nous connaissons le texte, la suite du texte. » Oui, une fois de plus, j'allais dire, nous ne sommes pas dans cette première création. Comment est-ce que nous pouvons nous permettre de dire cela ? Parce que ce n'est pas par hasard que saint Marc, souvenons-nous au début du texte, a noté cet ordre de Jésus, « Passons sur l'autre rive ». Donc on voit bien ici le grand symbole de passer de l'autre rive, c'est la Pâque. Passer sur l'autre rive, c'est être plongé dans la mort et la résurrection du Christ pour, j'allais dire, par notre baptême, et nous y revenons une fois de plus, devenir une création nouvelle, mais aussi la recréation du monde. Et donc de prendre conscience, et nous nous le rappelons aussi assez souvent, que par la résurrection du Christ, un monde nouveau est déjà né. Et on peut dire qu'être chrétien, c'est celui qui dit désormais, désormais, plus rien n'est comme avant. Alors, c'est une expression que l'on prend et que l'on a entendue au sujet de la pandémie que nous vivons et que nous traversons, que plus rien ne sera comme avant, je le pense personnellement, mais vu de manière chrétienne, on peut se dire que chaque fois qu'un événement important se déroule dans notre monde, eh bien, c'est comme une sorte de Pâques. Nous passons d'un état qui était celui, entre guillemets, pour reprendre le contexte que nous vivons d'avant la pandémie, à un temps après la pandémie. Nous vivons, et c'est bien ce que on essaye de manifester, une vie nouvelle. Mais vue de manière chrétienne, cette vie nouvelle est celle du ressuscité. Et une fois de plus, nous sommes là dans une réflexion et une théologie, en quelque sorte, du baptême. Car le baptême nous fait vivre greffé sur le Christ lui-même, en vivant de sa vie, de sa propre vie, et une vie qui n'est pas au service de notre propre petite personne, mais qui est au service des autres. Et nous sommes alors, comme le dit saint Paul, capables de rire avec ceux qui rient, de pleurer avec ceux qui pleurent, mais aussi de nous dire, vraiment de manière chrétienne, c'est-à-dire enraciné dans la personne du Christ, de redire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Amen.